Europe Soir Weekend.
Pierre de Villeneuve.
19h35 sur Europe 1. La justice en panne. On en parle ce soir dans Panorama avec en studio Béatrice Brugère. Bonsoir. Vous êtes magistrate, secrétaire générale d'unité magistrat SNMFO. Bonsoir Jean-Yves Le Borgne.
Bonsoir.
Vous êtes avocat vice-bâtonnier du barreau de Paris dans la grande liste des services publics pour lesquels nous, contribuables, nous payons accessoirement des impôts. Les Français estiment que le pire est celui de la justice. 77% estiment qu'il est défaillant. Mais alors, à qui la faute? L'exemple que l'on donne souvent, c'est la clémence des jugements en France, contrairement par exemple à ceux aux États-Unis. Dans un instant, Béatrice Brugère va nous confirmer qu'une dépêche interministérielle qui dit que des milliers d'affaires ne sont tout simplement pas examinées. Mais les peines, c'est un juge qui les applique. Bonsoir Capucine Patouillet.
Bonsoir Pierre, bonsoir à tous.
Le juge d'application des peines, quel est son rôle?
Eh bien, depuis 1958, celui qu'on nomme plus communément le JAP est celui qui supervise la mise en application de la peine de chaque condamné. Membre du tribunal judiciaire, il est donc, je cite, « compétent pour fixer les principales modalités de l'exécution des peines privatives de liberté ou de certaines peines restrictives de liberté en orientant et en contrôlant les conditions de leur application ». Cela concerne les peines d'emprisonnement, mais aussi le suivi socio-judiciaire, l'interdiction de séjour, le travail d'intérêt général ou encore les mesures de sursis avec mise à l'épreuve, qu'il peut ordonner, modifier, ajourner ou révoquer, mais aussi les permissions de sortie ou d'aménagement de peine, le condamné pouvant, le cas échéant, bénéficier d'une part d'une semi-liberté, comprenant une liberté surveillée en vue d'une réinsertion sociale, d'une surveillance électronique dans le cadre d'une détention à domicile ou encore d'une libération conditionnelle. À l'exception de certaines mesures, comme une réduction de peine ou une permission de sortie, les décisions du juge d'application des peines sont susceptibles de contestation par le procureur ou le condamné et son avocat devant la chambre d'application des peines de la cour d'appel.
Merci Capucine Patouillet pour ces précisions. Béatrice Brugère, ce juge d'application des peines aujourd'hui, est-ce qu'il fonctionne bien ?
Alors, est-ce qu'il fonctionne bien ? Oui, en tout cas, il fonctionne depuis 1958. Il a un peu quand même évolué. D'abord, tous les pays n'ont pas d'abord de juge d'application.
De JAP, ouais.
Tout le monde n'en a pas. C'est une singularité.
Comment ça marche, si ça marche, s'il n'y a pas de juge d'application ?
Il y a des pays, si vous voulez, c'est le ministère de l'Intérieur ou c'est la pénitentiaire qui, en fait, se charge de ce qu'on appelle les modalités d'exécution. Nous, on a choisi d'avoir un magistrat. Et au fur et à mesure, depuis 1958, et au gré des très nombreuses réformes, il y en a encore eu une très récemment avec le dernier garde des Sceaux, puisque vous avez, il y a encore des choses qui peut faire, qui est par exemple la libération sous contrainte, qui est encore une nouvelle formule. En fait, on est passé, si vous voulez, de cette idée de modalité d'exécution sous le couvert d'un juge à un droit à l'aménagement, quasiment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ceux qui sont condamnés ont des droits à l'aménagement des peines. Donc, on a complexifié, si l'on veut dire comme ça, ou en tout cas, on a enrichi les modalités de ces droits à l'aménagement, ce qui fait qu'aujourd'hui, le juge d'application des peines est devenu un élément central, voire pivot, de ce qui devient la peine.
Mais encore, faudrait-il qu'il ne soit pas débordé ?
Alors, il est débordé dans le sens que, en fait, on avait une loi qui avait été votée sous Rachida Dati, qui permettait. Non, c'est pas si vieux quand même. qui permet, si elle nous écoute, j'insiste, ce n'est pas si vieux, mais quand elle était garde des Sceaux, qui permettait d'aménager toutes les peines jusqu'à 2 ans d'emprisonnement. Donc c'était énorme. Et là, du coup, vous avez totalement raison, le juge est devenu un acteur extrêmement important parce que, j'ai regardé, ça correspondait à quoi 2 ans d'emprisonnement? Ça correspond à pratiquement 90% des peines qui étaient prononcées. Donc c'est-à-dire quasiment toutes les peines. Ce qui veut dire que le juge d'application des peines...
Il y avait une peine unique pour toutes les affaires, ça?
Non, ça veut dire qu'en fait, les magistrats, sur 90% des peines qui prononçaient, des peines d'emprisonnement ferme, hein, on est bien d'accord, ça n'allait pas au-delà de 2 ans. Ça veut dire que quasiment toutes les peines qu'on prononçait pouvaient, attention, ce n'était pas automatique, hein, j'insiste, pouvaient être vues par un juge d'application des peines pour éventuellement, sous certaines conditions, être modifiées. Je ne rentre pas plus dans le détail parce que c'est trop
compliqué. On va y venir. Jean-Yves Le Borgne, est-ce que vous êtes d'abord étonné de ce chiffre de 77% de Français qui trouvent que la justice va mal ?
J'en suis pas étonné parce que je pense que ces Français-là ne connaissent pas la justice. C'est une machine extrêmement compliquées. Et on a de temps en temps le sentiment que certains de nos compatriotes, un certain nombre important d'ailleurs, donnent des avis un peu à l'emporte-pièce. Je connais bien la justice depuis longtemps et je dois dire que elle ne fonctionne pas si mal, quoi qu'on en dise, et que les peines qui sont prononcées sont des peines souvent nuancées, heureusement nuancées, puisqu'il faut savoir qu'une peine n'est pas une rétribution mécanique d'un acte illégal. Elle doit bien sûr tenir compte de ce qui a été commis par la personne, mais aussi de sa personnalité. Il y a ce que l'on appelle le principe de l'individualisation des peines et qui se poursuit à travers notamment l'action du juge de l'application des peines dont parlait Mme Brugère à l'instant. Je crois que ce qui est essentiel dans notre fonctionnement, c'est que les magistrats, qui ne sont pas du tout laxistes comme on le prétend, essaient de trouver la peine adaptée. Mmh. Et nos concitoyens, parfois exaspérés par un certain nombre d'actes et de comportements qui leur pourrissent la vie, j'admets l'idée, mais qui en réalité, d'un point de vue criminologique, ne sont pas nécessairement d'une gravité exceptionnelle, voudraient qu'on incarcère alors que ce n'est pas nécessairement opportun. Ce qui me paraît le vrai problème, c'est que le juge en France n'a guère d'autres possibilités que la prison. Je songe, voyez-vous, notamment à ces jeunes délinquants qui parfois, dans certaines communes, créent des désordres à n'en plus finir et dont certains élus m'ont dit à plusieurs reprises « il suffirait qu'on m'en enlève trois ou quatre pour que la paix revienne dans ma commune ». Mais il n'y a pas de possibilité, par exemple, pour un juge, d'imposer à un garçon ou à plusieurs qui seraient meneurs dans la banlieue parisienne d'aller s'installer à l'autre bout de la France parce que les moyens d'organiser cette mise à l'écart n'existent pas.
Béatrice Brugère, là-dessus, sur la sévérité des peines.
Bon, juste rapidement sur ce que vous avez dit, sur les 77%, c'est toujours gênant ces sondages, mais il faut les entendre. Moi, je suis du côté de la magistrature, enfin du côté de ce côté-là, et j'entends la critique. C'est-à-dire que
vous êtes vous-même critique, puisque
oui,
enfin, on va y venir. Mais
c'est pour ça que je l'entends. Et si vous voulez, aujourd'hui, ce manque de confiance, même si aussi Maître Le Borgne a raison, il y a les choses. On travaille beaucoup. Ça, je veux dire, on peut pas dire qu'il ne se passe rien. Enfin voilà. Au contraire, on est même à bout, j'allais dire, de souffle dans certaines juridictions tellement on travaille. Donc la question sur laquelle il faut s'interroger, elle est triple. Pourquoi, alors qu'on travaille beaucoup, que les magistrats, on ne peut pas dire qu'ils ne prononcent pas de peine, vous avez totalement raison, d'ailleurs le chiffre est assez stable, il est de 130 000. Pourquoi il y a un tel déficit? Pourquoi il y a un tel discrédit? Pourquoi il y a un tel peu de confiance chez les citoyens? La réponse, elle est multiple. Je vais vous donner quelques pistes, si vous permettez. D'abord, je crois que la place des victimes dans notre système est à revoir. Les victimes sont maltraitées, elles ne sont pas à leur place dans un système qui n'a fait que renforcer le droit, si vous voulez, des prévenus. Il n'a pas toujours, j'allais dire, rééquilibré ça. Deuxièmement, il y a une complexité permanente. On n'arrête pas de changer la loi et ça devient illisible, trop complexe pour tout le monde. Donc, ce que vous décrivez tout à l'heure, c'est-à-dire une peine prononcée, n'est pas obligatoirement une peine exécutée, premièrement. Deuxièmement, une peine prononcée...
Pour exemple, c'est-à-dire une peine de prison qui, en fait, se transforme en un aménagement de peine, qui se transforme en un bracelet électronique, qui se transforme...
Exactement.
Etc.
Alors, voilà. D'abord, un, c'est pas obligatoirement la peine prononcée qui est exécutée. Deux, les peines qui sont prononcées sont exécutées trop tardivement. Aujourd'hui, pour vous donner des chiffres, il faut attendre pour avoir 94% d'exécution des peines prononcées, 5 ans. En réalité, ce qui n'est exécuté, et Maître Le Borgne le sait tout à fait immédiatement, ce sont les comparutions immédiates avec des mandats de dépôt ou les peines criminelles, parce que là, on a une exécution immédiate. Enfin, et les états généraux le disent, aujourd'hui, on est dans un état de délabrement, on manque de moyens, on manque de pilotage et de structures, de réformes structurelles importantes pour faire face à la fois à la demande. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a une déconnexion totale entre les attentes des citoyens et la capacité de tous les acteurs de la justice à rendre justice correctement en temps et heure. Ça ne veut pas dire qu'ils ne le font pas, ça veut dire qu'il y a un décalage réel. Et encore, on ne parle pas du civil, parce qu'on oublie souvent le civil. Mais le civil, c'est plus de 2 millions d'affaires où les délais aujourd'hui et les stocks ne cessent de s'allonger.
Et puis, il y a un chiffre que vous n'avez pas donné à l'instant, mais que vous avez donné dans une interview. Vous dites qu'il y a des indicateurs de performance et que le ministère de la Justice prévoit de faire passer le nombre de dossiers traités par un magistrat du parquet de 384 affaires par an en 2021 à 405 en 2025.
Oui, c'est tout le paradoxe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des états généraux qui ont dit qu'on était au bord de la rupture en termes de moyens, en termes de possibilités, parce que je le rappelle, mais c'est toujours bien de le dire et ça a été dit plusieurs fois, nous consacrons un budget relativement très faible au niveau européen sur la justice. On est à 73% là où les Allemands sont à 73 euros, là où les Allemands sont à 140 euros. Et on demande, et on a beaucoup moins de magistrats qu'il n'en faudrait par rapport aux autres pays européens. Résultat des courses, on a des délais en effet qui s'allongent et on n'arrive pas à résorber les stocks.
Maître Le Borgne, sur ce qui vient d'être dit.
Moi je voudrais revenir à la notion de peine. Le vrai problème c'est que le juge n'a pas autre chose à sa disposition que la prison. Et que la prison, notamment pour les...
Pourquoi vous faites la moue,
Béatrice? Bah oui, non, il y a la prison avec sursis, si vous
voulez. Parce qu'on n'a pas cessé, en fait, de diversifier en réalité. Là où Maître Le Bon a totalement raison, c'est que symboliquement, dans l'esprit des gens, si vous n'allez pas en prison, vous n'êtes pas puni. Mais en réalité, en tant qu'outil, on a créé les travaux d'intérêt général, on a plein de sursis possibles, imaginables, et la première peine que l'on prononce, vous savez, c'est les amendes ou les jours amendes.
Mais vous savez très bien que ce genre de peines dites substitutives, alternatives, c'est d'ailleurs symptomatique que ces peines que vous citez soient considérées comme alternatives à la prison. La vraie peine, dans l'esprit commun, c'est
alors,
la prison.
Prenons
et
un
c'est
exemple.
C'est là qu'il faut changer
prenons,
les choses.
Prenons un exemple parce que l'affaire date d'hier ou d'avant-hier. Revenons sur ce drame qui a coûté la vie à 6 enfants dans le car scolaire qui traversait le passage à niveau de Millas. La conductrice, dont on sait qu'elle, je ne suis pas magistrat, je ne suis pas en train de refaire l'affaire. On sait qu'elle elle était sous médicaments, elle était médicamentée, etc. Elle transportait des enfants. Bon. Il se trouve que ce bus a été percuté par un TER. Il y a eu 6 morts, 17 blessés. Elle est condamnée à 5 ans de prison, dont 4 ans avec sursis. Et on sait qu'elle va passer cette année de prison, entre guillemets, ferme, sous bracelet électronique. Voilà. Donc, il y a les parents, une grande partie des parents, notamment des 6 enfants qui ont été tués, qui crient au scandale, qui disent... Voilà. Et j'en reviens, Maître Le Borgne, à ce que vous disiez tout à l'heure sur l'individualisation de la peine, parce qu'on sait que cette femme est en détresse, qu'elle est médicamentée, qu'elle va pas bien, etc. Comment est-ce qu'on fait, j'allais dire, le modus vivendi entre la position de cette femme qui, visiblement... s'en veut terriblement d'avoir causé cet accident, et puis quand même la gravité des faits.
Mais je pense que cette affaire a été bien jugée. Ce n'est pas, quelle que soit la compassion, la commisération que l'on a pour les victimes, ce n'est pas aux victimes de juger. Et Dieu merci, d'ailleurs, le principe même de l'existence de la justice, c'est qu'il y ait un tiers sans passion qui voit objectivement les choses. Alors, c'est une affaire
comment
grave.
Comment vous voulez qu'il n'y ait pas de passion quand il y a 6 enfants qui sont morts dans des conditions terribles?
Je comprends la passion des malheureux parents qui ont perdu leurs enfants, bien évidemment. Mais il faut que celui qui apprécie la gravité pénale de la situation, lui, soit sans passion. Qu'il puisse peser les choses pour ce qu'elles sont. Alors d'un côté,
vous
un drame familial.
Vous arrivez à être sans passion, Béatrice Brugère?
J'espère en tout cas sans passion. Oui, Maître Le Borgne a raison. En tout cas, on doit être dans une forme d'impartialité de tiers qui tend à une forme de neutralité qui est impossible.
Vous n'allez pas me dire que vous arrivez dans un prétoire sans verser une larme, sans retenir 20...
Bien sûr.
C'est terrible.
Mais ça,
ce
n'est pas de la passion, c'est de l'émotion. Et vous avez tout à fait raison. On est des êtres de chair. Et là, je vous rejoins. Mais c'est à nous, et en effet, c'est pour ça que sur des affaires comme celle que vous venez de citer, qui d'ailleurs n'est pas définitive, donc l'appel
oui,
n'est
y
pas
y
définitive.
Oui, il y a un appel qui est possible.
Vous avez ce qu'on appelle une forme de collégialité pour justement neutraliser quand les magistrats jugent. Hein, ce n'est pas des juges uniques, mais c'est important ce que je dis, parce qu'on en a de moins en moins de la collégialité. Or, la collégialité correspond tout à fait à ce qu'on décrit, c'est-à-dire, non, on n'est pas sans passion, mais à plusieurs... On neutralise une passion et on essaye d'avoir un jugement dit raisonnable.
Bon, d'ailleurs, sur la collégialité, je pense là aussi qu'on pourrait faire œuvre d'imagination. Il y a un nombre considérable d'avocats qui pourraient compléter le tribunal. C'est d'ailleurs dans la grande tradition. Quand il manque un magistrat, ce sont les avocats qui complètent. Mais on ne le fait pas. Et ça assurerait une collégialité aussi générale que possible. Non, moi, ce que je crois, c'est qu'il faut, pour revenir à la peine, qu'il faut que l'on imagine de nouvelles sortes de pénalités. Ah. Il y a deux types de personnes condamnées. Ceux qui ont été, je dirais, qui ont fait un faux pas et dont la finalité consiste, je dirais tout naturellement, tout rationnellement, à les remettre dans le droit chemin, à opérer une sorte de normalisation du comportement. Je pense que notamment ce qui concerne les mineurs, c'est les mineurs ou les jeunes majeurs. C'est quelque chose que l'on doit faire, que l'on peut faire. Je pense aussi qu'un encadrement qui connaît la discipline, qui sait ce que c'est qu'un comportement social normal, je pense à l'armée, tout simplement, pourrait venir suppléer.
Non mais attendez,
rien n'est pire.
Vous les avez parlé aux militaires ?
Oui.
Mais ils n'ont absolument pas envie de faire ça. Hein.
Ah, mais je vais vous dire,
pas du tout.
Les militaires auxquels j'ai parlé, on n'a pas dû parler aux mêmes, m'ont dit, non pas qu'ils étaient enthousiastes, mais qu'ils étaient d'accord pour assumer la mission à la condition qu'on leur en donne les moyens matériels, bien entendu.
Ouais.
Et je pense que l'éducation, l'encadrement seraient infiniment préférables à l'incarcération, qui est une catastrophe sociale pour les primo-délinquants. Le petit gars, quoi qu'il ait fait de 18 ou 20 ans, que vous allez pour la première fois incarcérer, va devenir un caïd. Je ne pense pas que ce soit une vraie réussite sociale.
Pas d'accord, Béatrice.
Non, je ne suis pas tout à fait d'accord et je m'en excuse parce que j'aime beaucoup Maître Levin, mais c'est pas grave.
Non, mais vous excusez pas, vous êtes là pour débattre. On s'en fiche que vous l'aimez bien.
Mais c'est,
moi aussi, je l'aime bien.
C'est une façon aimable de lui dire mon désaccord avant de commencer. Non, plus sérieusement, pour revenir sur les mineurs, en réalité, c'est le sujet majeur, les mineurs, puisque c'est là que tout commence. On a un problème avec une criminalité de mineurs, on le sait. Aujourd'hui, on a des délais de jugement qui sont de l'ordre de 18 mois. Ça n'a aucun sens, j'allais dire même peu importe.
C'est-à-dire entre l'acte et la
donc
sanction.
J'allais dire peu importe la peine finalement, mais au bout de 18 mois, vous savez, un mineur, il a déjà tellement évolué. Je crois qu'au contraire, on est dans une idéologie de dire ah mais la première fois c'est gratuit, c'est pas grave. Moi, je reviens à des principes assez simples de Beccaria. Une peine, elle doit être proportionnée, immédiate et sûre, rapide et certaine, et surtout certaine. Or, notre problématique aujourd'hui, c'est pas qu'on ait un manque d'imagination, parce qu'en réalité, on a beaucoup plus de peines qu'on a créées encore régulièrement, comme celle du bracelet électronique, qui est une peine à part entière, sans référence, je vous rassure, avec la prison. On n'arrête pas de créer des choses. On a créé des tiges. La question, c'est pas celle-là. Pardon, des travaux d'intérêt général, etc. On n'arrête pas de créer. Au contraire, on ne fait que ça. C'est ce qui complexifie et ce qui fait qu'on bouge tout le temps. Notre problématique, elle n'est pas là. C'est qu'au contraire, il faut que dès que quelqu'un commet un acte grave, il ait ce qu'un psychiatre appelle une butée, c'est-à-dire une réponse immédiate, rapide. Quelle que soit la réponse, il faut qu'elle soit, j'allais dire, presque physique. C'est-à-dire qu'elle soit réelle. Aujourd'hui, on attend souvent je ne sais pas combien de réitérations, y compris pour les mineurs. Moi, je crois qu'au contraire, il y a des pays qui font ça. On fait exactement l'inverse de ce que nous, on préconise. C'est-à-dire des courtes peines, très rapides, immédiates, pour faire comprendre, mais pas dans les centres de détention aujourd'hui. Et ça marche très bien.
Là où vous m'inquiétez, c'est quand vous dites, quelle que soit la peine, il faut qu'elle soit rapide. Je suis d'accord pour le sens que prend la peine lorsqu'elle est prononcée rapidement, mais pas n'importe quoi. Et la courte peine d'emprisonnement me paraît une catastrophe.
Alors, on ne parle pas de la même chose.
Non, mais je crois que l'essentiel...
Mais comment on fait ?
Les courtes peines dont je parle, ce n'est pas celles dont vous imaginez, parce que ça existe dans d'autres pays, sont des peines qui vont de 8 jours à 3 semaines, et d'ailleurs ça marche très bien.
Mais où ?
C'est pas dans les pays nordiques,
en prison ?
C'est pas les mêmes établissements, c'est des établissements justement adaptés, justement où on ne mélange pas avec tout le monde, parce que là où je suis d'accord avec vous, c'est-à-dire qu'on a un problème de sous-investissement depuis des années dans les prisons. D'abord, on manque de place, pour commencer.
Ensuite,
le temps de la prison est rarement un temps utile, parce que ceux qui travaillent en prison n'ont pas les moyens de leur fonction, c'est-à-dire de réinsertion, éducation, etc. Donc tout ça, c'est un mythe, donc ça ne marche pas. Et en plus, comme on n'a pas de place, on mélange en fait des profils qui ne doivent pas être mélangés. Donc voilà, on voit qu'il y a tout à reconstruire sur le sens et la manière dont on sanctionne.
Il y a deux choses. La première, c'est que les jeunes, à force, ils n'ont plus peur de l'applicabilité des peines. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que vous avez confirmé le fait que les procureurs ont pour instruction de classer des milliers de procédures pénales en souffrance.
Ça, plus clairement. C'est-à-dire qu'il y a eu, en effet, une circulaire interministérielle qui date d'il y a, du mois de mai 2021, à la plus d'un an, qui a demandé d'aller sur site, c'est-à-dire dans les commissariats de police. Ça a toujours existé, mais là, ça a pris...
Donc le procureur se déplace.
Voilà, ça a toujours existé, mais là, ça a pris une forme plus systémique, on va dire, et plus rationnelle, où on leur a demandé, parce qu'on a trop de stocks, c'est vrai, d'enquêtes qui ne sont pas faites. En réalité, ces enquêtes ne sont même pas faites ou elles n'ont même pas commencé.
Donc en gros, le procureur, il arrive, il dit ça on enquête, ça on n'enquête pas, ça on enquête, ça on n'enquête pas, il fait le tri.
Voilà. Bah,
sur quelle base ?
Alors, c'est sur des bases qui sont celles, évidemment, de la priorité d'une politique pénale locale, évidemment. C'est-à-dire, est-ce que les faits sont graves ? Est-ce que les faits sont anciens ? Est-ce qu'on a trouvé les auteurs, etc., les préjudices, etc. Donc, tous ces critères-là...
Oui, mais avant de se scandaliser sur cet aspect des choses, rappelons que le ministère public en France dispose d'un droit qui est celui de l'opportunité des poursuites et que le classement sans suite, ça fait des siècles que ça existe. Alors, il ne faut pas utiliser cette notion...
Peut-être pas à ce niveau, pas dans ces proportions.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est fait parce qu'on déstocke, parce qu'en fait, les nouvelles lois, et on le sait par exemple pour les mineurs, puisqu'on a fait un nouveau code des mineurs, où on encadre dans des délais très courts, sont impossibles à tenir pour les juges, qui sont déjà débordés, parce qu'en fait, on leur demande, et c'est très bien, d'aller plus vite, et c'est très bien, ils vont pas trop vite.
Ça, c'est relatif aussi, parce qu'il y a,
mais il y a tellement, il y a tellement de stock, si vous voulez, que c'est l'échec des nouvelles lois s'ils devaient déjà traiter le stock. Donc, on l'a dit, de réorienter, ça, c'est pour les mineurs.
Donc, on a plus peur de la justice.
Non, mais attendez, il faut quand même pas laisser croire à nos auditeurs que tous les matins, le procureur débarque au commissariat et classe des affaires graves sous prétexte qu'on est débordé. Ce n'est pas ça, la gestion de la criminalité en France. C'est faux.
Alors, Là où on a la possibilité de le faire, et c'est tout à fait ce que vient de dire Maître Le Borne, c'est qu'on a un système en France qui s'appelle l'opportunité des poursuites. L'opportunité des poursuites, c'est un instrument justement de politique pénale. Aujourd'hui, et c'est ce qu'ont reçu les procureurs des consignes, parce qu'on a trop de stock, c'est d'accélérer, si vous voulez, des classements d'affaires, parce que ni la police, ni la justice n'arrivent à absorber ces stocks. Et donc ça interpelle la responsabilité des pouvoirs publics, ce qui doivent donner les moyens à la police et à la justice pour garantir l'égalité des citoyens devant la loi.
Merci beaucoup à vous deux, merci Béatrice Brugère. Je note que vous avez collaboré au livre « Vaincre l'islamisme » aux éditions du Cerf. Merci à vous Jean-Yves Le Borgne. « Accusez, levez-vous », c'est un livre que vous avez coécrit avec Caroline Pigozzi.